9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Qu'est-ce qu'on mange pour Noël? Mais oui, bonne question. C'est probablement l'une des questions les plus posées ces derniers jours. La cuisine est l'un des sujets préférés des Français. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder le nombre élevé d'émissions qui lui sont consacrées à la télé ou à la radio, le nombre important de magazines, de livres. La cuisine, c'est un sujet qui marche, un sujet à la fois intime et convivial, un sujet culturel, social et même peut-être aussi politique. Et c'est sous cet angle qu'un documentaire choisit de s'y intéresser. Ça s'appelle La France au fourneau. Ce sera ce soir à 20h50 sur France 5. Bonjour Lorraine Malka.
Bonjour.
Vous êtes la co-auteure de ce documentaire, La France au fourneau, co-auteure avec Antoine Salaire. C'est François Morel qui l'incarne et qui prête sa voix au film. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce doc?
Alors, on a voulu raconter, c'était le challenge de raconter les 70 dernières années de la société française à travers ses pratiques culinaires. Donc, vraiment, en comptant vraiment sur les archives. Donc, on a vraiment fait une recherche d'archives très, très dense. Vous avez vu le film, je pense que c'est vraiment extrêmement riche et dense. Donc, c'est les 70 dernières années, mais vraiment sur tous les aspects de la société française.
Il y a un fil rouge, c'est François Morel. C'est plus qu'un fil rouge, c'est un comédien qui raconte l'histoire de la France et des Français à travers l'alimentation et la gastronomie. Et il le fait tout en préparant un repas. Il se demande ce qu'il va cuisiner. Il choisit la blanquette de veau. Pourquoi avoir choisi ce plat?
C'est un plat vraiment... On a vraiment voulu raconter l'histoire de France dans son aspect le plus pop et populaire. C'est pour ça que François Morel incarne si bien François Morel, qui a été vraiment choisi par France 5, mais on s'est tout de suite dit mais comment on aurait pu raconter cette histoire sans François Morel? Donc vraiment à travers l'aspect le plus populaire et pop de...
Donc la blanquette.
Donc la blanquette, voilà, ça représente à la fois la tradition française, les Français chez eux, dans ce qu'ils ont l'habitude de manger.
Et la modernité.
C'est un souvenir.
Et la modernité, on recevait hier à cette table Laurent Mariotte, et dans son livre de cuisine, il y a la blanquette. C'est
absolument
pas oublié, c'est pas quelque chose d'ancien.
Non, parce que le patrimoine culinaire français est quand même très présent dans notre modernité. Je pense que ça, c'est assez présent aujourd'hui, on le ressent beaucoup. On a eu beau extrêmement évoluer, beaucoup changer et passer, comme on le dit dans le film, du pot-au-feu de mamie Jeannine à l'œuf moléculaire ou aux graines de chia, voilà. Le patrimoine reste très présent et très cultivé par les Français.
Comment s'est déroulé le travail avec François Morel? Qui a fait quoi?
Alors, François Morel, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit vraiment la grande histoire de France à travers ses pratiques culinaires, et on a voulu que ce soit exactement incarné, comme vous l'avez dit, par François Morel à la première personne, avec ses souvenirs. Et du coup, il a été question, pour moi en particulier, d'écrire cette histoire en laissant, on va dire, des trous. En
laissant des blancs.
Voilà, en laissant des blancs, pour que François Morel puisse s'approprier, avec son co-auteur Antoine Salaire, le texte, en racontant vraiment ses souvenirs à lui, ses Madeleines de Proust, en disant de temps en temps, voilà, moi, ma grand-mère me préparait ci et ça. À un moment, il parle de ce que lui préparait sa grand-mère. Il dit que sa Madeleine de Proust, à lui, c'est une patate trempée dans du lait. Et c'est très drôle. Et en fait, voilà, donc il s'est emparé du texte, vraiment à sa façon.
Si j'ose dire, des blancs montés en neige. Alors, on va résumer 70 années d'histoire en 1h30. C'est un sacré défi. Vous parlez, entre autres, de l'agriculture intensive, de l'émergence du bio, de l'émancipation des femmes, de l'évolution des émissions de cuisine, de l'arrivée des fast-foods, de la nouvelle cuisine française, et tout cela de manière très fluide. Comment vous avez travaillé ?
On a travaillé, en fait, au départ, donc moi, personnellement, je viens de l'écrit, donc j'ai vraiment écrit un texte pour le défendre auprès de la chaîne France 5, écrit un texte à partir de recherches documentaires très détaillées, justement, comme vous le dites, pour retracer toute cette histoire sociétale à travers les pratiques culinaires. Et ensuite, il a été question, et c'était là le challenge aussi, de trouver des archives qui ne font pas qu'illustrer, en fait, le propos, mais enfin, des archives qui parlent, en fait, ce qu'on appelle des archives in, c'est-à-dire qu'elles dialoguent entre elles. Et donc, il a fallu vraiment trouver des archives qui disent exactement ce que vous venez de décrire.
Et bien justement, on va en entendre des archives, on va parler du fond de votre documentaire. Vous commencez par l'après-guerre, la France se relève progressivement, c'est l'occasion d'évoquer les produits de première nécessité, le pain, le lait et le vin. Parce qu'on l'a peut-être oublié, mais dans les années 50, le vin est considéré par beaucoup comme un aliment sain et nourrissant à tel point qu'on le donne aux enfants à l'école. Du vin, mais aussi du cidre et de la bière. C'est terrifiant et ça l'est encore plus à l'écoute de ce témoignage, celui d'une psychiatre. C'est une archive qui date d'il y a un peu plus de 60 ans.
Vous êtes psychiatre, docteur?
Je suis psychiatre. Je soigne pas mal d'enfants que l'on m'amène pour des anomalies multiples, souvent des anomalies du caractère, de l'affectivité, du sommeil. Et en interrogeant les familles, j'ai appris qu'à ces enfants, et j'insiste, qui étaient souvent de très petits enfants, des enfants qui avaient de 3 à 8, 10, 12 ans, les familles donnaient régulièrement des boissons importantes pour leur âge, de vin, de cidre, de bière, des quantités qui allaient de 1 demi-litre à 1 litre de vin pur par jour. Le résultat, c'est que les enfants arrivent à l'école rouges, suants, et toute la matinée dorment à moitié.
On appelait ça d'ailleurs l'alcool l'eau de vie, et on pensait que c'était positif. Archive rare, voire inédite, vous avez raclé les fonds de tiroir, si j'ose dire, et c'est pas péjoratif.
Exactement, ça c'est vraiment une archive. Alors moi j'avais vu cette archive dans une note de bas de page d'une thèse qui a été écrite sur l'alcoolisme en France, et en fait j'ai réalisé ensuite que cette archive venait d'être exhumée par l'INA. C'était une archive de l'ORTF, donc avec ce témoignage incroyable. Moi j'adore cette archive, je la trouve vraiment étonnante. En plus, l'interview de la psychiatre est très longue, et elle dit qu'à l'époque, on avait beaucoup plus peur de l'eau que de l'alcool, qui était censé être purifiant et bon pour la santé.
Vous parlez également de l'évolution de la condition des femmes. En quoi la cuisine, à tous les sens du terme, illustre leur émancipation entre 45 et maintenant ?
Alors, c'est vraiment un aspect qui est très très intéressant. Par exemple, en fait, vous avez signalé justement que à partir des années 50, il y a vraiment les grandes thématiques de ce film qui tout de suite s'annonce, et notamment l'émancipation des femmes à travers, par exemple, l'apparition des produits des robots électroménagers. Ouais. Donc ça commence comme ça, en fait, vraiment avec une organisation où les femmes travaillent, ont besoin de gagner du temps et de cuisiner plus vite. Les maris ne rentrent pas forcément déjeuner tous les midis, donc elles peuvent aller plus vite dans leur cuisine et ne pas faire deux grands repas par jour. Ouais. Voilà, et donc ça, on a illustré ça à travers notamment, par exemple, le MAPI, les fiches cuisine du magazine Elle, qui ont été fondées par MAPI. Enfin, ça commence comme ça, et après ça traverse tout le film, en fait, l'émancipation des femmes. Moi ça fait partie des thèmes qui m'ont passionné.
Et ce qui était frappant, on recevait des journalistes du magazine Elle qui ont sorti un gros livre à l'occasion de leur anniversaire des 70 ans, et il y avait parfois des femmes en couverture du Elle qui posaient dans leur cuisine, ce qui serait absolument impensable maintenant. Vous restez avec nous, Lorraine Malka, on continue de parler de ce documentaire La France au fourneau, la blanquette continue à cuire. Ici dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Vous avez reconnu OSS 117, l'une des meilleures répliques du premier volet, c'était Le Caire, nid d'espions. Autre signe que la blanquette de veau, qui est le fil rouge de votre documentaire, Lorraine Malka, est l'un des plats emblématiques de la cuisine française, la France aux Français, au fourneau, pardon. Je me trompe de. Vous avez fait exprès de faire sur l'allitération. J'avais peur, je me suis dit, à tous les coups, je vais y aller droit dedans, la France au fourneau. Et non pas aux Français, c'est ce soir sur France 5. Louis de Funès, autre archive étonnante, c'est le témoignage d'un jardinier amateur, l'une des plus grandes vedettes des années 70.
Le vert est la couleur à la mode. Tout le monde s'y met, y compris la télé.
La vie en vert est allée rendre visite au jardinier amateur le plus célèbre de France, Louis de Funès. Louis de Funès qui nous a reçus dans son potager.
Vous avouez qu'on mange un petit peu n'importe quoi à l'époque.
Ah, pas du tout. Moi, Enfin, comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en deuxième année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide.
Je vais aller.
Vous voulez dire quelque chose ?
Non, simplement, c'est assez étonnant d'avoir cette archive, parce qu'on voit, de toute façon dans ce film, c'est aussi l'un des principes, c'est de voir à quel point les tendances qui explosent aujourd'hui sont nées en fait il y a très longtemps. Et par exemple, le bio, en fait, l'agriculture bio n'est pas née dans les années 2000.
Dans les 2000, mais oui, c'est ça qui est complètement étonnant dans cette archive. Et puis on va rester dans le cinéma, parce que le rapport à la nourriture dit quelque chose de l'époque. Exemple, on va se projeter en mai 73, on est donc à la fin des 30 Glorieuses, juste après, c'est l'année du premier choc pétrolier. Direction La Croisette, Croisette sur laquelle un film fait scandale.
Le Festival de Cannes, c'est un film qui ne laissera personne indifférent, paraît-il. Voici quelques-uns des qualificatifs que j'ai relevés dans une seule dépêche à propos du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri, présenté par la France. Ubuesque, rabelaisien, nihiliste, scatologique, pornographique, trivial, insoutenable, cruel. Ça devrait être un gros succès commercial.
Oh, qui représente la France.
Pas contente, la dame. Cette violente satire du consumérisme bourgeois défraie la chronique. On refuse de voir ces 2h15 d'orgies alimentaires et sexuelles tournant au suicide collectif. Il faut dire que l'inquiétude monte, tous azimuts, comme si on pressentait des crises à venir.
Qu'est-ce qui vous a intéressé, Lorraine Malka, en montrant cette affaire, si j'ose dire, la grande bouffe ?
C'est exactement ce que dit François Morel, en fait, qui est vraiment incroyable, c'est de voir à quel point, effectivement, on refuse de voir les excès de la société de consommation à l'époque. Et donc, on voit cette présentation du film à Cannes qui fait un scandale, mais violentissime. Alors que un an plus tard, il y a le choc pétrolier, tout va s'enchaîner jusqu'à la crise des années 80 et la société qui va devenir de plus en plus méfiante à l'égard de l'alimentation et des excès de la société de consommation.
Alors ici, on est dans une émission média, je vous apprends rien, et la passion des Français pour la cuisine s'explique également par sa médiatisation, par les livres de cuisine, par les magazines. Vous évoquiez les fiches cuisine de Elle et par la télévision, Raymond Oliver et puis son fils Michel Oliver, Michel Guérard, chef étoilé au Michelin notamment, puis dans les années 80, deux voix, la première discordante et énervée, la seconde franche et rassurante.
10 ans plus tard, un autre ennemi de la malbouffe voit encore plus rouge. Il s'appelle Jean-Pierre Coff et il nous le dit franchement, ce qu'on mange, c'est de la merde.
Regardez, vous trouvez que c'est joli ce truc-là ? Ben voilà le travail, c'est ce qu'on se trouve maintenant. Alors c'est pour ça que je me bagarre.
Là, vous vous insurgez contre les industriels qui veulent absolument produire des cerises sans queue.
Ben, c'est une, effectivement...
Alors que c'est comme ça qu'on voit leur fraîcheur.
Bien sûr, la queue doit être raide, ferme, verte, brillante. Je vois pas ce qui peut faire rire.
Sacré Jean-Pierre, sur d'autres chaînes plus prudes, on reste optimiste en valorisant notre patrimoine gastronomique. La truculente Maïté, cuisinière star de l'époque, nous apprend à déguster les ortolans de sa région.
Le moment solennel...
Plus prude, pas sûr finalement.
Je ne veux pas qu'on me voie lui sucer de derrière.
Au-delà de Jean-Pierre Coff et de Maïté, qu'est-ce qui a changé dans les émissions de cuisine à la télévision en 60 ans, ce qui est quand même une longue période ?
Énormément de choses. Là, ce qui est vraiment étonnant dans le fait d'aller chercher Maïté et Jean-Pierre Coff, c'est de voir que, alors Maïté nous le dit gentiment, elle nous prévient, voilà, les enfants, comme une grand-mère, les chéris, faites attention, préservez votre patrimoine culinaire. Elle nous montre les produits entiers, elle est la première à faire ça, à vraiment montrer les gibiers. Et puis Jean-Pierre Coff qui vient taper du poing sur la table parce qu'on est au moment aussi de la vache folle et de cette crise sanitaire gigantesque lui dénonce les sachets, les produits...
Le jambon sous plastique.
Voilà, exactement.
Et on voit Maïté aussi dépecer un sanglier, une image qu'on ne pourrait plus vraiment monter aujourd'hui. On parle beaucoup de cuisine dans les médias. Il y a des émissions de cuisine, il y a la table des bons vivants sur Europe 1, Tous en cuisine avec Cyril Lignac qui reprend là pour les fêtes sur M6, très très bon sur Paris Première, des compètes de cuisine, Top Chef sur M6, Le meilleur pâtissier M6 encore, il y a Masterchef, des documentaires sur la cuisine, les 4 saisons avec Jean Humbert sur France 5, Chef's Table sur Netflix. Bref, beaucoup, beaucoup de programmes culinaires. Comment parler de cuisine en ayant un regard neuf sur le sujet ? Est-ce qu'on n'a pas fait le tour de tout ? Ou est-ce qu'il y a encore plein de territoires à défricher, selon vous ?
Alors, je pense vraiment que ça faisait partie des challenges de la maison de production qui a produit ce documentaire, qui s'appelle TV Only. C'était de sortir de l'adresse touristique, sortie gourmande, comme on peut le faire à travers toutes les émissions culinaires qu'on a en ce moment, ou de la simple recette, et d'aller vraiment chercher ce que ça révèle de notre société, de notre histoire, en quoi ça traverse absolument... tous les champs sociétaux de notre histoire. Et juste pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui a changé les 70 dernières années par rapport à la façon dont on présente les émissions, ce qui est très important, c'est quand même la nouvelle cuisine qui a transformé un peu le cuisinier en artiste, en fait, et le gourmand en gourmet. Et donc aujourd'hui, les cuisiniers sont... Enfin, il y a une vraie...
Ce que vous appelez la nouvelle cuisine, c'est la cuisine de maintenant, pas la nouvelle cuisine des années 70 avec les toutes petites portions.
En fait, ça a commencé dans les années 70, c'est Gaud et Millau qui ont établi établit les 10 commandements de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine avec notamment Paul Bocuse, Michel Guérard, qui est une cuisine allégée. Tu allégeras tes sauces. Il y a 10 commandements qui sont vraiment dans l'idée d'un produit plus pur et voilà.
François Morel, dans le documentaire, dit « La nourriture n'a jamais été aussi politique, sociale et culturelle. Qu'est-ce qu'elle a de politique, la nourriture ?»
Alors, aujourd'hui en particulier, je trouve que c'est très frappant. La cuisine est vraiment un lieu de revendication politique très fort, notamment à travers ce qu'on voit aujourd'hui, la crise écologique. Je pense que ça passe aussi par la cuisine. Et je pense effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, avec la crise de la vache folle, il y a vraiment eu on s'est rendu compte qu'on pouvait tomber malade en mangeant à cause de lois qui n'étaient pas respectées ou qui n'étaient pas encore mises en œuvre, établies, et que ça pouvait devenir un lieu de revendication politique, effectivement.
Et François Morel termine ce documentaire avec un clin d'œil et une pratique très, très française qui frappe les étrangers. Ils disent « Les Français mangent en parlant de nourriture » et inversement, on le fait tous, vous aussi, vous faites ça ?
Absolument.
Vous faites quoi pour Noël au menu ?
Alors ça va être justement, ça me fait penser à ce que vous disiez, c'est aussi un lieu d'expression politique parce que c'est un lieu d'expression des minorités. Moi ça va être particulier, ça sera un couscous à Noël.
Merci beaucoup Lorraine Malka, vous êtes co-auteur du documentaire Pendant qu'on entend la musique du grand restaurant, le doc La France au fourneau, raconté et incarné par François Morel. Ça passe ce soir sur France 5 à 20h50. Merci d'avoir été avec nous, bon
Merci
appétit
beaucoup.
Un peu par avance.